J'ai ouï dire que des recherches sont actuellement en cours en Vendée, mais pas seulement. Ces recherches concernent des femmes qui, dans les années 70, se sont engagées dans un groupe féministe et plus spécifiquement leur lutte pour la libération sexuelle dans le Grand Ouest de la France. C'est Marine Gillis qui mène l'enquête pour sa thèse de doctorat, dont le sujet est « Du privé au politique, l'expérience de libération sexuelle des militantes du mouvement de libération des femmes ». MLF, en Bretagne et Pays de la Loire de 1970 à 1981. Bonjour Marine Gillis.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous au téléphone.
Avec plaisir.
Donc, pour résumer, on va résumer parce que vous avez un sacré parcours. Vous êtes doctorante aventurière contractuelle en histoire à l'Université d'Angers.
Oui.
Membre du bureau d'effigie. Fondatrice de l'atelier Archives, Mémoire et Transmission du Féminisme et LGBTQ+.
Oui.
Et secrétaire adjointe d'Archives du Féminisme, chargée des réseaux sociaux et de la commission audiovisuelle. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Vous avez d'autres casquettes à nous communiquer ou ?
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà vachement bien, je trouve. Alors, je vais reprendre le sujet de votre thèse, qui est donc « Du privé au politique, l'expérience de libération sexuelle des militantes du mouvement de libération des femmes en Bretagne et Pays de la Loire de 1970 à 1981 ». Comment vous est venue l'idée de cette thèse ?
Alors, j'ai postulé sur un sujet qui a été défini par ma directrice de thèse. C'était un sujet qui a été financé. On était plusieurs à postuler et c'est moi qui ai eu le contrat doctoral. Donc, et puis après, en fait, le sujet ne portait pas sur la Bretagne et la Loire, ça portait sur les biographies sexuelles des militantes du MLF. Et moi, j'ai fait le choix de travailler sur l'Ouest.
D'accord. Et pourquoi avoir choisi de travailler sur l'Ouest ? Il y a une raison spécifique ou ?
Oui, bah déjà parce que je suis rattachée à l'Université d'Angers et que je trouve que ça fait sens de travailler sur le territoire où on travaille. Parce que la Bretagne me faisait aussi grandement rêver, besoin d'aller voir la mer, tout ça. Et puis que le MNF est bien connu au niveau, on va dire, réseau parisien. Il y a des travaux sur Toulouse, Tarbes, sur Lyon, Grenoble. Et sur l'Ouest, il y a très peu de choses. Et notamment sur le Pays de la Loire, il y a rien. Enfin, il y a sur Angers, mais il n'y a pas sur la Vendée. Donc c'était l'occasion de défricher un territoire par rapport à l'histoire des luttes féministes.
Quand vous dites aventurière, c'est vraiment aventurière alors, pour le coup ?
Ah bah oui, je suis partie pour la Bretagne, je suis partie d'un livre sur l'histoire des féminismes à Rennes, il y a un mémoire sur le mouvement à Brest, à Angers il y a des choses qui ont été faites, mais sinon oui, c'est vraiment l'exploration des archives et puis l'exploration du territoire parce que je ne suis pas du tout originaire de l'Ouest et que donc j'ai écumé le territoire avec mon vélo.
Ah oui, avec votre vélo, vous y allez en train ou en vélo, c'est ça pour aller à la rencontre des personnes ?
Oui, ça me permet vraiment de mieux comprendre le territoire et puis c'est une façon de travailler qui me donne l'impression de ne pas travailler justement et en même temps les personnes qui me voient arriver avec le vélo sont un petit peu surprises, étonnées et accueillantes par rapport à cette démarche.
Et j'ai lu d'ailleurs que vous disiez, alors vous parliez de la Mayenne à ce moment-là, mais vous disiez que vous aviez besoin de découvrir le territoire mayennais pour comprendre en fait les mayennaises, c'est ça ?
Oui, parce que c'est pas du tout mon histoire, c'est pas du tout ma région, et que quand elle me parle par exemple du poids des traditions religieuses et du rôle de l'agriculture, bah, on s'en rend bien compte quand on voit... Quand on explore le territoire, le nombre de champs et le nombre de châteaux qui bordent la Mayenne, on se rend compte toute cette histoire féodale et elles sont très liées à ce rapport à la campagne. Ça explique en partie les dynamiques féministes sur le département.
Et c'est pareil en Vendée alors ? Il y a quoi de spécifique dans le territoire vendéen qui pourrait vous amener à comprendre les Vendéennes ?
Eh ben, je m'attendais à ce que la dynamique féministe en Vendée soit la même qu'en Mayenne, et en fait, ce n'est pas le cas. La Vendée est plus active. C'est un peu péjoratif de dire ça par rapport à la Mayenne, mais disons que c'est un petit peu plus radical et que j'ai beaucoup de contacts et au niveau des luttes, bah, c'est vraiment très riche comme histoire. Je ne m'attendais pas à ça, en fait.
Oh super, oh là là, ça fait un bon teaser je trouve, hein. Ça donne envie de connaître la suite. Enfin, d'abord je voudrais savoir comment vous construisez votre thèse à partir donc de témoignages, de films, vous enregistrez, comment vous...
Alors j'ai commencé par les archives écrites, mais qui sont très très peu nombreuses parce que les féministes qui n'étaient pas nécessairement structurées en association n'écrivaient pas, ou écrivaient des tracts mais n'ont pas conservé ou prenaient très très peu de photos. Donc ça a été déjà chercher la moindre trace de ce que je pouvais trouver, et c'est pas forcément dans des revues féministes que je les trouve. Donc il y avait d'abord ça, et puis ensuite c'est les entretiens qui sont vraiment au cœur de mon travail, et là je fais deux choses différentes, parce que je suis aussi donc membre d'Archives du Féminisme. Pour Archives du Féminisme, je filme des entretiens qui sont des témoignages libres, donc la personne elle parle de tout son parcours et pas forcément que de ses engagements féministes. Et puis après il y a les entretiens que je fais de façon anonyme pour mon travail de thèse, où là j'ai une grille d'entretien avec des questions plus intimes, plus précises. Donc c'est deux choses différentes.
Oui, d'accord. Deux choses différentes, mais du coup qui se recoupent, qui sont parallèles en fait.
Oui, parce que les personnes que je rencontre, évidemment, elles rentrent dans le cadre de ma période chronologique.
Ok, et donc là vous en parliez tout à l'heure, vous en êtes où dans vos recherches en Vendée?
Bon, j'en suis que j'ai rencontré déjà pas mal de monde. Et que j'en ai encore à rencontrer, il m'en reste quelques-unes. J'étais hier justement à La Roche, j'ai fait un témoignage le matin, une rencontre l'après-midi, et j'ai revu une troisième militante, parce que je devais lui rendre un livre, sur justement les paysans travailleurs dont elle fait partie. Donc voilà, c'est encore en construction, je n'ai pas encore de recul sur ces entretiens, je ne les ai pas encore retranscrits, j'ai à peine commencé à monter les films. Donc j'en suis un petit peu à là. Il m'en reste, je crois, trois entretiens à faire. Et j'en ai fait, je dois être à une bonne dizaine.
Et alors, vous avez appris des choses, vous avez découvert quoi, par exemple, s'il vous plaît, donnez-nous un petit morceau à grignoter. Même si, alors, bon, j'entends que vous n'avez pas de recul, mais juste parce que ça paraît tellement alléchant comme recherche. Enfin voilà, on aurait envie, nous aussi, de savoir... ce qu'il en est, quoi.
J'ai beaucoup de choses et j'ai notamment trouvé trace d'un groupe Choisir, donc Choisir qui était à l'origine un mouvement fondé en 71 par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, hein, après le manifeste des 343. Et puis petit à petit, il y a des groupes locaux qui se sont créés et en Vendée, à La Roche, j'ai trouvé trace dans la revue APL du groupe Choisir Vendée. Et puis, en fait, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont fait partie de ce groupe. Et ce groupe est devenu ensuite le groupe pionnier féministe en 76, qui a duré jusqu'à 78-79. Et c'est redevenu Choisir. Et puis, petit à petit, il y a eu d'autres formes de militantisme. Après, il y a eu la création de l'association SOS Femmes Vendée, etc. Mais ça, c'est plus tard. Mais il y a eu aussi des groupes femmes. Il y a eu un groupe femmes au sein du mouvement des paysans travailleurs. Donc il y a une diversité des luttes que je trouve absolument passionnante et des actions aussi. Je ne sais pas si vous voulez que je développe un peu sur le type d'action qui pouvait être menée.
Allez-y, on vous écoute, on est toutes oui.
Alors avant le passage de la loi Veil, donc sur l'interruption volontaire de grossesse, c'était en 75, elles ont commencé par faire un peu des projections de films, hein, sur l'avortement, la contraception. Il y a eu des voyages organisés pour les femmes, pour qu'elles partent à l'étranger pour se faire avorter. Il y a eu des ateliers de bricolage, de graphisme. En 76, elles ont fait un forum qui a super bien marché avec des textes, des présentations. Elles ont fait des manifestations, des distributions de tracts. Il y a eu un procès pour viol aux assises de La Roche-sur-Yon en 78. Elles étaient là. Il y a eu aussi un procès contre deux femmes qui ne se sont pas revendiquées des groupes féministes, mais qui ont bombé en 79 sur des murs de La Roche-sur-Yon. Elles ont bombé « Terre des hommes, viol de nuit ». Fête des mères, fête des affaires, 364 jours d'ennui, un jour de répit, nous refusons cette vie. Donc ça, j'en ai trouvé trace et elles n'étaient pas du groupe pionnier féministe, mais le groupe pionnier féministe ainsi que d'autres associations les ont soutenues au moment de leur procès. Donc il y a eu énormément de choses en fait.
Mais c'est marrant parce que ça fait écho au collage féministe qu'on peut voir maintenant en fait, je trouve.
Oui, et j'ai écrit un article sur mon blog où justement je fais le rapprochement entre ces bombages. Hein. On en retrouve trace dans la presse. Hein. Il y en a qui disent on est contre, on est pour. Bon, ça a créé débat. Et c'est un petit peu le principe du collage à l'heure actuelle. Alors, on n'est pas sur ce qu'on appelle le féminicide. Hein. Dans les années 70, Là, c'était vraiment se réapproprier les rues, la nuit, la fête des mères était très contente, enfin plein de choses comme ça, quoi. Mais oui, il y avait des bombages à La Roche-sur-Yon.
Ah, intéressant, donc il va falloir qu'on aille voir sur votre blog, en fait.
Il n'y a pas tout encore, mais petit à petit, je vais compléter. Et puis après, je compte faire un montage de tous les entretiens que j'ai faits sur la Vendée, que je vais inclure dans un film, bon, c'est un bien grand mot, mais on va dire, oui, un film, dans lequel je vais mélanger les témoignages des personnes de Vendée avec celles de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire. Voilà, je vais faire un film sur le Pays de la Loire. Et j'espère bien pouvoir le projeter à La Roche-sur-Yon ou d'autres endroits en Vendée quand il sera fait.
Oh bah avec grand plaisir, ça serait vraiment super chouette. Comment vous trouvez les témoignages, comment vous trouvez les personnes pour qu'elles témoignent, comment vous êtes reçues, comment ça se passe, l'échange humain?
Alors j'ai d'abord contacté des associations, comme le planning familial, ça n'a pas tellement pris. Après, j'ai été en contact avec une historienne du Centre d'histoire du travail de Nantes. J'ai oublié le nom. Je suis désolée. Et après, c'est une journaliste aussi qui m'a aidée en écrivant un article et qui m'a mis en contact avec un médecin qui est à la retraite, hein, mais qui s'est beaucoup investi au Centre IVG de La Roche, Christian Bonneau, et il m'a vraiment aidée à mobiliser les militantes que j'ai rencontrées parce qu'il les connaît. Et qu'il est encore militant. Et donc, bah, comme ça, il les a un peu motivés. Puis, j'ai pu avoir des contacts. Après, je les ai appelés. Je leur ai expliqué ma démarche et j'ai été reçue. Mais c'est extraordinaire. L'accueil chaleureux, les échanges. Moi, j'en suis toute émue quand j'en parle parce que j'y étais encore hier en Vendée et j'ai passé un moment vraiment formidable.
Il y a ça aussi. Je pense que, en plus du travail que vous faites, il y a tout cet échange humain, les histoires aussi que vous recevez dans la parole, etc. Enfin, je m'imagine quelque chose d'incroyable, une aventure incroyable.
Il faut le vivre pour comprendre vraiment, parce que il peut y avoir des moments difficiles quand certaines me racontent des situations de violence, d'avortement clandestin. C'est pas toujours facile. Il faut que j'aie le cœur un peu accroché. Et puis parfois, c'est des moments de joie. Et puis c'est toute leur lutte que je vois défiler. C'est tout un travail de reconstruction de mémoire pour elles. Et puis, bah, par exemple, hier, j'ai rencontré une dame qui a fondé le planning familial, hein, en 64 à La Roche, Sabine. Et en fait, quand je l'ai eu au téléphone, elle attendait ma visite. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes de sa part de me rencontrer. Et moi, j'étais tout émue de la voir et je vais la revoir d'ailleurs parce qu'on va continuer notre échange. Et voilà, il y a des choses comme ça. Et puis des personnes qui, elles s'arrangent, mais elles se plient en quatre pour que je me sente bien quand j'arrive à La Roche. Elles viennent me chercher en voiture pour m'emmener chez elles. Elles me font à manger le midi. C'est vraiment des moments de joie, d'émotion. Et puis bah oui, je parle de ce que je fais. Et puis après, je vais garder le lien avec elles pour la suite de ma recherche, leur expliquer où j'en suis, comment je vais traiter leurs entretiens. Après, je leur envoie leur témoignage filmé pour qu'elles valident le contenu. Et puis, il y a tout un travail derrière, après, de valorisation, et elles seront au courant.
J'imagine, ouais, que le partage, déjà, ça doit être extraordinaire, surtout par ces temps-là, quoi.
Oui. Pour moi, déjà, ça m'a fait tenir psychologiquement par rapport à toute cette situation de pandémie. Je crois que sans ça... Je ne sais pas dans quel état je serais. En fait, c'est vraiment... ça me motivait à faire quelque chose parce que sinon, voilà, je n'étais pas bien du tout. Et je pense que pour certaines aussi, notamment celles qui sont peut-être seules, bah, c'est l'occasion de voir quelqu'un. Oui. Et puis de se dire, bah, ce que j'ai fait, ce n'est pas rien. Ce que j'ai fait, c'est important. Ça mérite d'être raconté. Ça mérite d'être transmis. Et je suis quelqu'un de bien. J'ai fait plein de choses. Et c'est ça qui est génial.
Mais c'est ça, c'est aussi de se dire que tout le travail qu'on a accompli toute sa vie a une reconnaissance à un moment donné dans l'histoire, quoi. Enfin, j'imagine même pas. J'ai pas de mots, en fait. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la lutte pour la libération de tous les corps des femmes doit être encore menée?
Ah oui, oui. Là, la première chose qui me vient à l'idée, c'est sur... les normes morphologiques, c'est sur bah, le rapport au poids, le rapport au fait d'être maigre ou grosse, ça me paraît encore très très important parce qu'il y a beaucoup de stigmates par rapport aux corps différents, par rapport au handicap, le fait que les femmes qui ont un handicap subissent plus de violence que les autres. Voilà, c'est... Et puis au niveau de la sexualité, moi ce qui me bouleverse, c'est que je me rends compte que, ok, dans les années 70, il y avait la contraception, ça n'a pas été évident au début, et l'avortement encore moins. Mais aujourd'hui, moi, en fait, ce que dans les récits que j'entends, ben moi, ça me questionne énormément sur moi et je me rends compte à quel point j'ai du chemin à faire sur l'acceptation de ma sexualité. Sur plein de choses et je pense qu'il y a encore beaucoup de luttes, notamment aussi sur le maintien de l'IVG. Hein. Il y a encore des mouvements qui manifestent, qui font des actions pour contre ça et je trouve que c'est qu'il faut que les féministes ne lâchent rien parce que dès qu'il y a une crise sociale, c'est les femmes qui payent d'abord.
Oui. Donc, on a fait des avancées en la matière ou bien on a régressé ? On en est où, là, à votre avis, par rapport aux témoignages que vous avez déjà reçus et notre époque actuelle ? Est-ce qu'il y a des liens, il y a des ponts ?
Ben, moi, je ne vois pas les choses en termes de progression, régression. Il y a progression par rapport aux droits, par rapport à l'accès à l'IVG, c'est sûr, par rapport aux violences, par rapport à tout ce qui est législation du mariage, de la parentalité, mais après c'est sur le plan personnel, c'est pas parce qu'on vit dans une époque où on a des droits que on y accède forcément et que soi-même on est libéré en fait. C'est un cheminement personnel et puis c'est en fonction des rencontres qu'on fait et la violence elle existe toujours. Je crois qu'on le voit beaucoup en ce moment. Hein,
oui.
Par rapport à tout ce qui se fait là sur MeToo, la question de l'inceste, des violences faites aux femmes, je crois qu'on est encore loin d'avoir gagné, quoi.
Oui, ça c'est vrai. Mais oui, il y a des droits, mais il faut encore qu'on les défende et on a encore du pain sur la planche. Et justement. On disait à l'époque que les femmes, les féministes étaient assez radicales, diaboliques, énervées, violentes. On le dit encore aujourd'hui pour les féministes de maintenant, mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est le cas ou, enfin, quel est votre avis là-dessus ?
Moi, je trouve que les féministes ne sont jamais assez radicales. Et que de toute façon, elles seront toujours traitées de radicales. Voilà. Dans les années 70, on trouvait que le MLF est trop radical. Bah maintenant, on se dit oh le MLF finalement c'était des sages. Par rapport à aujourd'hui, les dénonciations, tout ça. À chaque époque, en fait, le mouvement féministe n'est pas forcément bien perçu. Voilà, il y a des phases où ça va paraître radical et puis en fonction des avancées législatives, finalement. C'était des luttes qui sont légitimes, d'accord, mais il y a d'autres luttes à mener. Et du coup, ça paraît à nouveau radical. Et c'est à chaque fois qu'on avance, en fait.
Bah, c'est ça, à chaque fois qu'on avance. Mais c'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'on avance, quand même, on a un petit retour de bâton, hein, mine de rien.
Ben oui, c'est un petit peu le problème. Moi, je vois ça comme un élastique. Et plus on tend d'un côté, plus il y a une tension de l'autre côté. Et que plus nous, on avance, plus il y en a d'autres qui vont s'opposer.
Bah, c'est ça le problème.
Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut lâcher. Et justement, le fait d'être attaqué, ça veut dire que ça fait débat, que ça fait écho et que les choses bougent. Sinon, s'il ne se passe rien, c'est que tout le monde s'en fiche.
Exactement, je suis entièrement d'accord. Alors continuons la lutte. On va rester sur continuons la lutte. Ainsi s'achève cette interview. Sachez qu'une partie du travail de Marine Gillis, mon invitée, se trouve sur son blog dont on parlait tout à l'heure. L'adresse est la suivante, https://laventure.hypothèse.org. Et sinon, vous pouvez suivre Marine Gillis sur Twitter au nom de Marine Gillis. Je vous remettrai de toute façon tous les liens sur notre site internet urban-radio.com, rubrique programme, j'ai ouï dire. Eh bien, merci beaucoup Marine Gillis pour cette interview. Merci de nous avoir accordé du temps et on a hâte de voir le résultat de vos recherches.
Ben merci, moi j'ai hâte de les partager avec vous.
Ah ben c'est gentil. Au revoir.
Au revoir.